Allô, allô, ici la Suède. C'est Pierre depuis Göteborg, la deuxième ville de Suède. Ce podcast, c'est tout ce que vous voulez savoir sur le modèle suédois, basé sur des échanges avec des Français qui vivent l'expérience de l'intérieur. Avec mes invités, on va essayer de déconstruire des mythes et rétablir quelques vérités. On va passer en revue les subtilités, les nuances et les paradoxes de ce modèle proche du nôtre, mais à la fois très éloigné sur certains aspects. Ça sera sous forme de discussions décontractées et tant qu'à faire, avec le sourire. Aujourd'hui, je discute avec Émilie Cochot-Kaminski, qui est journaliste correspondante pour la presse française comme Libération ou Ouest-France. Elle est basée à Stockholm et elle nous partage son quotidien et ce qu'elle a pu observer à travers son métier de journaliste. Tout y passe, les traditions, être parent en Suède, l'équilibre vie pro-vie perso, quelques paradoxes et aussi des côtés un peu moins mis en avant par la presse quand on parle de la Suède. On a parlé série Netflix et proximité avec la nature. Cet épisode fait partie des premiers épisodes d'une longue série, j'espère. L'idée, c'est de collecter des témoignages et des expériences. Chaque épisode sera un point de vue à un instant donné et mis bout à bout, ça nous apportera des pistes et des clés de compréhension pour comprendre plus en détail et plus en nuance le modèle suédois. Et si vous voulez vous imprégner un peu plus de la Suède, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. Le compte s'appelle, comme le podcast, ici, la Suède. S'il y a des sujets pertinents ou des invités qui vous paraissent intéressants, je suis toujours preneur, même si je peux vous dire que la wishlist des invités est déjà bien garnie. Dans tous les cas, je suis toujours partant pour discuter avec vous. J'ai vraiment apprécié notre discussion avec Émilie et j'espère que ça vous plaira aussi. Maintenant, place à l'épisode. Salut Émilie, je suis hyper content de t'accueillir dans ce podcast. Ça va être parmi les premiers épisodes, alors je te remercie vraiment de jouer le jeu. On a déjà un petit peu discuté hors ligne et j'ai l'impression qu'on a plein de sujets intéressants qu'on va balayer aujourd'hui. Donc super, comment tu te sens ?
Bonjour Pierre, écoute, ça va très bien. Je me sens comme au cœur d'un hiver suédois. Alors moi je suis à Stockholm, donc il fait froid, mais on n'a pas de neige en ce moment, donc j'espère que la neige va revenir.
Ouais, c'est ça, la neige et le jour, le soleil.
Exactement.
Ok, c'est super drôle parce qu'en préparant cet épisode, j'ai reconnu des articles en fait que j'avais lus à leur parution et qui étaient de toi. Et donc maintenant je suis content de t'avoir ici, tu vas pouvoir m'en dire un petit peu plus. Pour commencer, est-ce que tu peux m'en dire plus sur toi et puis sur ton lien avec la Suède ?
Oui. Alors, je suis journaliste depuis 10 ans, principalement en presse écrite, même si j'ai commencé en télévision. Je suis vraiment quelqu'un qui aime l'écrit et la profondeur que ça peut apporter et aussi la nuance. On pourra en reparler. Mon lien avec la Suède, le premier contact que j'ai eu avec le pays, c'était en 2015 et c'était pour des vacances. Je connaissais pas du tout les pays scandinaves et je suis venue, je sais plus si c'était en juillet ou en août, en tout cas il faisait super beau et j'ai passé 10 jours à visiter Stockholm et l'archipel. J'avais beaucoup aimé la nature, aller sur les îles, ce côté aussi où la ville était très animée, il y avait beaucoup de concerts, il y avait de la musique partout, c'est un peu le souvenir que j'en garde. Et il y a 2 ans, mon mari était en train de chercher un nouveau travail et il avait plusieurs possibilités. Et dans les entretiens qui passaient, il me dit j'ai quelque chose à Stockholm. Et je lui ai dit, ah ouais, Stockholm, c'est super. Et en fait, lui, il ne connaissait pas du tout la Suède. Et moi qui étais allée, ça a créé un petit déclic. Et je me visualisais vraiment pouvoir y passer quelques années. Donc en fait, j'ai été aussi le moteur de cette expatriation parce que je l'ai poussé à le faire. Parce que quand on s'expatrie, il faut être deux. Il faut que les deux aient envie. Enfin, en tout cas, c'est mon avis.
Ouais, c'est clair.
Et du coup, voilà, et puis ça s'est fait. Donc finalement, c'est un mélange de hasard, mais qui était lié aussi à mon histoire, parce que si j'étais jamais venue à Stockholm, je pense que j'aurais pas dit oui, allons-y. Et j'avais eu ce coup de cœur. Et puis en tant que journaliste aussi, s'il y avait un pays que j'avais envie de découvrir en tant que journaliste qui est très intéressé par les sujets de société et de culture, la Suède, ça m'a paru être une évidence. Alors que s'il m'avait parlé peut-être du Luxembourg ou de la Suisse, j'aurais pas dit oui.
C'est vrai. Et c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de cas comme ça, des gens qui sont venus pour 10 jours ou même ne serait-ce que pour un contrat d'un an et maintenant ça fait 10 ans qu'ils sont là. J'ai l'impression qu'il y a un petit côté, quand on commence à s'approcher de la Suède, on y reste pour un peu plus longtemps que prévu.
Ouais, je pense aussi. Ouais.
Et alors, donc maintenant, tu es correspondante pour des journaux français, c'est ça ?
Oui, voilà, je travaille pour différents journaux. Alors, les correspondants aujourd'hui, en tout cas pour ce qui est des correspondants français, la plupart, l'immense majorité sont indépendants, donc on est en freelance, et donc on est amené à travailler pour différents médias, on est rarement rattaché à un seul, et donc moi dans mon cas, je travaille par exemple pour Libération, pour Ouest France, et puis pour d'autres magazines. Ça peut aller de magazines spécialisés sur les médias, comme l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, ils ont un magazine, ils étaient intéressés par des sujets sur la Suède, ou même de la presse jeunesse, voilà, j'ai pu faire des articles sur être enfant en Suède, donc c'est vraiment très éclectique, et c'est ça qui est super.
Ouais, on pourra revenir sur l'enfance en Suède, hein, effectivement, ça. Parce que moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est... Tu abordes beaucoup, beaucoup de sujets différents, donc que ce soit la famille, pédagogie, l'écologie, la géopolitique. Dans tes articles que tu as rédigés, c'est vraiment, vraiment très large. Est-ce qu'il y a des sujets qui sont vraiment difficiles à aborder ou à saisir la nuance ici en Suède ?
C'est une bonne question. Moi, c'est vrai que j'ai été plongée, puisque je suis arrivée il y a un peu plus d'un an et demi, et j'ai été plongée dans deux grandes mutations du pays. Auquel je m'attendais pas puisque j'arrivais vraiment vierge de toute connaissance pratiquement sur le pays. Moi, j'avais en tête les mêmes clichés en fait que n'importe qui. Et donc, je suis arrivée à un moment où il y a eu la question de l'adhésion à l'OTAN. Alors qu'en effet, ben, comme tout le monde, j'avais cette image d'un pays neutre, avec cette espèce de troisième voie, voilà, la Suède, la bonne conscience du monde, du coup, qui est non alignée. Et puis, deuxième gros choc, les élections, avec un résultat auquel moi, je ne m'attendais pas du tout. Et donc, en fait, ça m'a demandé aussi de me plonger, de m'immerger dans la Suède. Qu'est-ce qu'était la Suède, en fait, avant ces mutations? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Donc, voilà, et notamment pour couvrir les élections, il a fallu un peu se replonger dans ce qui s'était passé avant, qui pouvait expliquer pourquoi la droite avait gagné, pourquoi elle s'était alliée avec l'extrême droite, et qu'en fait, c'était un mouvement qui était là depuis déjà plusieurs années.
Ouais. Si on sort un petit peu de la politique, là, c'est pas une question facile, c'est pas une question piège non plus, mais quand tu dis saisir la Suède, comment tu pourrais résumer très grossièrement le... quand tu dis saisir la Suède, c'est quoi les grandes tendances suédoises ?
Moi, et ça c'est mon regard personnel, et forcément c'est un peu aussi des sujets qui m'intéressent le plus. Moi, je suis très attirée par les sujets société et culture. J'ai un regard, naturellement, je vais avoir envie d'avoir un regard presque anthropologique, en fait, sur les choses. Donc, je vais être aussi bien intéressée par les traditions, par exemple, Santa Lucia, Midsommar, découvrir des fêtes qui n'existent pas du tout en France et qui déjà me disent quelque chose sur cette société. C'est-à-dire, c'est des fêtes qui n'existent qu'ici, et qui vont mettre l'accent sur le besoin, quand on est suédois, de se réunir avec les voisins, avec le quartier, d'être ensemble dans des fêtes qui parfois sont des fêtes d'origine païenne ou pas, mais qui sont en tout cas très anciennes. Et ce besoin de se réunir et de dire, voilà, je suis suédois, c'est une fête suédoise, voilà, Santa Lucia, je montre parce que je vais mettre ces étoiles de l'avant aux fenêtres ou ces chandeliers. Voilà, je montre au monde que je fais la même chose que mon voisin et que c'est très suédois de le faire. Donc, il y a cet aspect tradition qui, pour moi, était très mystérieux, en fait. Ouais. Pourquoi y a ces fêtes qui ouais. existent, et il y en a beaucoup, parce que j'ai dit Santa Lucia et Midsommar, mais il y a aussi Valbori, je crois que c'est en avril, et du coup avec ces grands feux de joie, où voilà, il y a tout mon quartier qui se réunit, et c'est assez fascinant, donc ça déjà, saisir la Suède, c'est comprendre quelles sont ces traditions, d'où elles viennent, pourquoi elles sont encore vivantes aujourd'hui. Ouais, alors ouais. que nous, en France, on a plein de traditions qui, sans doute, étaient un peu proches de celles dont je viens de parler, mais qu'on a un peu perdues, qu'on a oubliées. Donc, Il y a cette idée de bah, c'est un pays finalement qui a été assez préservé dans son folklore et ses traditions. Donc ça c'est une partie.
Je sais pas ce que tu en penses sur les traditions, mais c'est vrai que, comme tu dis, en France, quand on dit tradition, ça fait un peu tout de suite patriote, militant. Alors qu'ici en Suède, quand on dit tradition, ça fait plutôt bon enfant. Et comme tu disais, c'est hyper féerique en fait, toutes ces fêtes. La seule finalité, c'est de s'amuser, de prendre du plaisir. Et ouais, c'est vrai que c'est une grande différence, je suis d'accord.
Ouais. Ouais, et puis moi j'avais, comme ça m'intéresse beaucoup, j'avais discuté avec un anthropologue du musée nordique et j'essayais de, ouais, je lui ai demandé, mais en fait pourquoi ces traditions elles sont encore là aujourd'hui et lui, donc il m'avait parlé en fait de ce sentiment d'appartenance à une communauté qui est assez important en Suède et qu'on retrouve dans plein de choses, même dans des programmes télé qui sont suivis par beaucoup de gens, Julkalendern, la série de Noël, mais voilà, il y a Mello Festivalen, il y a plein de rendez-vous comme ça où tout le monde va se mettre à regarder la même chose. Donc voilà, et puis à côté des traditions, ce qui m'a marqué, bah ça c'est comme beaucoup de monde, c'est le mode de vie. Le mode de vie plus tourné vers la nature, moi c'est ce que je recherchais et pour le coup j'ai pas été déçue une seule seconde par ça. Voilà, le fait d'être à Stockholm en plus c'est ça qui est incroyable et sincèrement je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de capitales qui offrent cet équilibre où la nature est présente dans la ville, que ce soit ben, la mer. On voit aussi les rochers, en fait, de la roche dans la ville. Ça, c'est super marquant.
C'est drôle parce que ça fait hyper cliché. Et moi, depuis que je m'intéresse à la Suède, au départ, avant de venir, je disais ça peut pas être aussi stéréotypé, la nature, l'accès à la nature, le lifestyle et tout ça. Mais en réalité, bah si, on est vraiment là-dedans. C'est hallucinant. Moi, je suis plutôt à Göteborg, donc je suis pas à Stockholm. Mais j'ai un lac à moins de 10 minutes de chez moi, j'ai la nature, il y a des rennes qui viennent manger dans notre jardin. Enfin, c'est hallucinant. Ouais, ouais. Et on est... Ouais, alors après, c'est peut-être notre côté bisounours naïf pour le moment, mais c'est plus qu'un stéréotype. C'est, ouais, je pense qu'ils ont, ils sont vraiment un point d'honneur à ce que ça soit le cas, quoi.
Oui, oui, et puis quand tu parles des rennes, etc., bah, pareil, oui, avoir des biches qui viennent dans ton jardin, bon, bah, ça, tout le monde le raconte et avec des yeux émerveillés, mais c'est vrai que c'est super. Là-dessus, c'est quand même très préservé, il y a encore de l'espace. Donc là, ça, par exemple, c'est un des stéréotypes où je trouve, enfin, voilà, quand on parle du modèle suédois et du mode de vie, de la qualité de vie, en tout cas sur le rapport à la nature, oui, c'était à la hauteur de ce que j'attendais. Et voilà, je ne suis pas certaine qu'on peut être à 15 minutes, par exemple, du centre-ville, moi, c'est mon cas, et être à côté de la forêt et d'un lac. Voilà, je sais très bien qu'à Paris, ça n'existe pas, il faut aller beaucoup plus loin.
Ouais. On ne va pas commencer à comparer l'incomparable, je pense. Petite question par rapport aux journaux français, est-ce qu'ils ont des attentes particulières? Est-ce que tu penses qu'ils ont une sorte d'attente que toi, en tant que correspondant, tu surfes un peu sur les sujets faciles et que tu plonges dans ce fameux stéréotype? Ou comment les Français ont envie de percevoir la Suède?
Je pense qu'il y a, et ça tous les correspondants le diront, il y a cette pente naturelle et qui est totalement compréhensible d'avoir des sujets qui correspondent soit aux clichés qu'on a sur un pays, soit qui au contraire détruisent ce cliché. Donc soit l'aspect modèle, soit l'aspect contre-modèle. C'est pas particulier à la Suède, tous les correspondants disent la même chose. Moi, j'ai des collègues, par exemple, allemands, qui travaillent en France, et c'est pareil, oui, un sujet sur les Français qui font la grève, bah, ça marche, parce qu'on a ce stéréotype. Donc voilà, sur la Suède, en effet, tous les sujets petite enfance, les sujets suédois proches de la nature, il marche et il marche très bien. Moi, j'avais fait un article sur un programme télé qui s'appelle Den Stora Älgvandringen, donc la grande marche des élans. Bah, je crois que c'est l'article que j'ai fait qui a le mieux marché en France. Il a été repris ensuite par toutes les télés. Voilà. Et c'était un sujet décalé et ça, ça, c'est vrai que ça marche bien. Maintenant, depuis les élections, forcément, on est plus sur des sujets un peu plus sur le contre-modèle, parce que ces élections, malgré tout, ça a été une surprise pour beaucoup de... Pas pour les personnes qui habitent en Suède, qui ont vu, en fait, les choses arriver, mais pour les médias français qui connaissent peu les pays scandinaves, il y a eu une incompréhension. Mais qu'est-ce qui se passe, en fait? Parce qu'on a eu d'un coup des sujets, et j'en ai fait, hein, moi, sur la question de la criminalité, sur voilà, la montée de l'extrême droite, et il y a eu, je pense, une forme de rattrapage aussi des médias français sur qu'est-ce qui se passe en Suède, pourquoi on en est là. Et il y a eu un gros rattrapage, parce que je pense que la plupart des gens étaient sur une image de la Suède qui date d'il y a 30 ans. Et peut-être parce qu'il y a moins de place pour des sujets un peu qui soient ni sur le modèle ni sur le contre-modèle. Voilà, sans doute qu'il y a des choses qui ont été un petit peu ratées. Et aussi parce que c'est un pays qui est peu couvert, en fait, par les médias français. On est peu de journalistes français. Je crois qu'on est 3 correspondants, plus quand même le bureau de l'AFP qui fait un super travail, où ils sont assez nombreux. Mais voilà, sur les correspondants, on est un peu moins nombreux. Donc il y a encore une très grande méconnaissance du pays.
Ouais, je suis bien d'accord. C'est bien pour ça que, tu vois, j'ai essayé de lancer ce podcast pour déconstruire un peu des idées reçues, ou pour préciser un peu des nuances, parce que j'ai l'impression que c'est un peu tout ou rien, comme tu disais, c'est vraiment modèle contre modèle. Il y a beaucoup de sujets que tu traites, notamment la parentalité, on commence à en parler. L'enfant roi, c'est un sujet hyper touchy en France, et on prend souvent la Suède. Et pourquoi est-ce que tu penses qu'on aime se comparer à la Suède? Qu'est-ce qui fait que c'est autant ce fantasme, en fait, sur la Suède?
Je pense qu'il y a des choses qu'on comprend pas. Et c'est amusant, et je pense que beaucoup de... Sur la petite enfance, il y a un truc que tout le monde sait, c'est cette histoire du congé parental qui dure un an. Déjà, je pense que ça, c'est fascinant. Voilà, à part les pays scandinaves, ça existe nulle part ailleurs.
Et est-ce que tu penses que c'est de la jalousie?
De la jalousie, j'en sais rien, mais une fascination de... cette fascination de l'idée d'un équilibre qui paraît en tout cas de loin être un équilibre parfait. On a du temps pour les enfants. Moi, c'est un truc que j'ai constaté ici, c'est peut-être que le travail prend moins de place et la famille prend plus de place. Et je pense que c'est un truc, peut-être, moi, en tant que Française, en tout cas, enfin, en tant que personne, en tant qu'individu, et ça correspond à notre génération aussi, on a envie de ça. On a envie de, voilà, que notre vie ne se résume pas au travail. Et c'est vrai que la Suède, en fait, la famille te définit au moins autant que ton travail. Et ça, pour le coup, je pense que c'est là-dessus, la Suède, évidemment qu'elle est précurseuse de ces changements-là. Et notre génération, on a envie de ça. Donc, il y a forcément une part d'envie. Et bien, il y a aussi une grande part de mystère. Encore une fois, les Français, mais même les anglophones, ils connaissent très mal la Suède. Donc, qu'est-ce qui se passe là-bas, quoi? Pourquoi c'est mieux ou pas, d'ailleurs?
Ouais, mais je pense que c'est aussi pour ça que c'est difficile de faire un copier-coller du modèle et de l'appliquer sur un pays. Ça peut pas marcher comme ça. Là, ça fait des générations et générations qui marchent comme ça, ils ont ça dans leur ADN, en fait. On peut pas dire il faut appliquer un an pour tout le monde, même si je suis convaincu qu'il faut augmenter au maximum les congés parentaux. Mais l'état d'esprit suédois, c'est effectivement complexe à saisir.
Oui, ça, et puis ça, comme tu dis, c'est... C'est ancré dans des choses très très profondes. On peut prendre deux exemples. Moi j'ai une petite fille, donc j'ai vu comment ça se passait dans les förskolor, donc dans les maternelles en Suède. Moi j'étais fascinée par le temps que les enfants passent dehors. C'est un truc qui m'a beaucoup marquée, puisque ma fille elle était en première année de section en France. Et puis, on arrive donc en l'équivalent de la deuxième section de maternelle ici en Suède. Et à l'école, je vois qu'elle passe 2 heures, 3 heures dehors. Et donc, je trouve ça super. Voilà, ils vont dans la petite forêt qui est derrière la maternelle. Ils font beaucoup de sorties. Ils prennent le bus. Ils jouent avec la boue dehors. Voilà, ils s'en mettent partout. c'est une hantise pour les parents, mais en même temps, je trouve ça super.
Mais il faut préciser pour ceux qui écoutent en France, c'est qu'ici, ils ont des combinaisons étanches, comme si c'était une méga toile cirée autour de l'enfant. Ils sont waterproof, les enfants. C'est hyper drôle à voir. Ça fait des armées de Teletubbies sur le trottoir qui vont jeter dans les flaques d'eau, c'est hallucinant, mais ouais.
Exactement, et c'est un peu là où je voulais en venir, c'est que en France, donc, en maternelle, on passe 30 minutes, 45 minutes, peut-être grand maximum, dehors quand on est un enfant. Et moi, je me disais, mais pourquoi on ne fait pas la même chose en France, en fait? Et c'est là que tu vois que c'est compliqué d'appliquer des choses d'un pays à un autre pays parce que ici, en effet, il y a cette culture déjà d'équipement. Et ces équipements-là aussi, c'est un investissement pour les parents. Donc, d'avoir la combinaison spéciale pour la pluie, la combinaison spéciale pour la neige, la combinaison spéciale pour le vent, mais qui ne fait pas non plus pour la pluie, mais pour la neige. Donc, il y a ça. Et puis surtout, quand on creuse un peu, il y a un encadrant pour 5 enfants. Donc, de l'âge de 1 an à l'âge de 6 ans, les enfants, c'est un groupe. Il y a un encadrant pour 5 enfants. En maternelle, en France, il y a 2 adultes pour une vingtaine d'enfants. Donc, forcément, on comprend que dans les conditions où tu n'as que 2 adultes pour une vingtaine d'enfants aussi, ça va être compliqué qu'ils soient tout le temps dehors et tout le temps en récréation. Ouais. Donc en fait, les différences, elles sont énormes.
Ouais, et puis c'est même plutôt pire en France. Hein. C'est plutôt un adulte et demi pour une trentaine d'enfants. Donc
Et puis pareil pour le congé parental. Moi, je trouve ça super et je pense sincèrement que la Suède estime que pour le bien de l'enfant, le fait que les parents soient là la première année de vie, c'est super important et c'est la priorité.
J'ai même envie de dire, c'est plus que la Suède, c'est les scientifiques qui le valident et c'est juste que la Suède se donne les moyens de le faire.
Quoi. Voilà.
Et que les entreprises suédoises l'acceptent. Et ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui rend la chose plus facile. Quoi. C'est pas un tabou de dire à son employeur « je vais arrêter de travailler pendant un an parce que je vais m'occuper de mon enfant ». Ils disent « ok, cool, bien sûr ».
Ouais, il faut tout adapter. Il faut revoir les priorités de chacun. Il faut que vraiment que les entreprises... accepte ce besoin en fait des gens de trouver un équilibre. C'est vital pour tout le monde. La pandémie, ça n'a fait qu'accentuer ce besoin et de toute façon, je pense que c'est le sens de l'histoire.
Ouais.
Donc le tournant, on est en train de le prendre et là-dessus, encore une fois, la Suède, elle est en avance, ça c'est sûr.
Ouais, c'est ça. Je pense qu'ils ont une ou deux générations d'avance. Comme tu dis là, l'histoire de work-life balance, d'avoir un sens dans notre travail et tout ça. En France, ça commence à devenir à la mode ou c'est une vraie tendance de fond. Ça, ils l'ont saisi depuis 10 ans, 15 ans ici.
Ouais, et puis il y a aussi un autre mouvement en France qui est un mouvement un peu parallèle là, qui est en train de se créer, je dis de plus en plus de choses dessus, qui est peut-être arrêtons de chercher du sens à tout prix dans le travail, parce qu'au final, ça nous rend aussi assez malheureux de mettre autant de choses dans le travail, d'en attendre autant, et décentrons-nous un peu, la famille c'est important, les activités à l'extérieur c'est important, et en fait c'est déjà ce que font les Suédois. C'est-à-dire qu'ils ne mettent pas tous leurs œufs et toute leur identité dans le même panier. Il n'y a pas que le travail, il y a tout le reste et c'est beaucoup plus équilibré de ce point de vue, je trouve.
Ouais, c'est hyper, hyper intéressant. J'avais jamais saisi ça comme ça, mais ouais, à vouloir à tout prix. Hein. Mm.
Et en France, en fait, pour que on arrive à ça, on part quand même de très très loin, ça c'est certain. Et puis, il faut comprendre aussi que ça a d'autres... Il y a des conséquences à ça, c'est-à-dire que alors, c'est ça, c'est qu'en Suède, en fait, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, du coup, avant l'âge d'un an, il n'y a pas de solution d'eau de garde financée par l'État. Donc, à partir de l'âge d'un an, la place est garantie dans les crèches. Mais avant, les parents sont censés en effet garder leur enfant jusqu'à l'âge d'un an. Et alors qu'en France, avant l'âge d'un an, on a la possibilité d'avoir une assistante maternelle, de faire de la garde partagée. Il y a la CAF qui va aider les parents à financer ça. Donc moi, j'avais parlé à un ministre de la petite enfance en France et on parlait du modèle suédois. Je disais, ok, maintenant on est passé à un mois pour les pères, c'est très bien, mais pourquoi on va pas plus loin, et je rappelle le modèle suédois, et je disais, voilà, pourquoi on n'a pas plus de places en crèche en France, et il me disait, certes, en Suède, c'est comme ça, mais en effet, avant, il n'y a pas non plus de mode de garde, donc en fait, on voit que ça implique aussi des choix, c'est des vrais choix, quoi, qui ont des aspects très très positifs, mais qui impliquent peut-être de perdre aussi sur d'autres points, comme le fait de pouvoir faire garder son enfant avant l'âge d'un an. Donc c'est là qu'on voit qu'aussi les choses sont plus complexes et qu'en tout cas, passer d'un modèle à l'autre, ça implique des très très gros changements.
Oui, bien sûr. Évidemment, ça ne peut pas être tout rose. Après, je pense qu'il ne faut pas le nier, l'État suédois, il met un peu plus d'argent dans la petite enfance que l'État français. Donc, y a des choix politiques qui sont faits sur la société, c'est sûr. C'est clair. Et si tu sors un petit peu de ton rôle de correspondant et d'analyse de la vie quotidienne, est-ce que tu peux partager ce que c'est le quotidien d'une maman française ici à Stockholm ? Est-ce que c'est aussi léger qu'on peut le fantasmer comme...
Le quotidien est quand même très sympa. Moi, c'est vrai que j'ai la chance, et ça a été un choix, d'habiter dans une maison. Ça, c'est quand même une grande chance, et d'être à 15 minutes, comme je disais, du centre. Donc ça, juste en termes de qualité de vie, moi, j'y ai beaucoup gagné, évidemment. Après, l'école, c'est un peu amusant parce que, avec mon mari, on se partage les tâches, évidemment. Il y en a un qui amène ma fille le matin. Ensuite, le soir, il y en a un qui vient le récupérer. On a réussi à négocier deux jours de babysitter par semaine, c'est-à-dire que la babysitter va chercher ma fille. Mais c'est vrai qu'au début, j'étais un peu, on était un peu gênés en fait d'avoir une babysitter deux jours par semaine parce que, dans l'école où se trouve ma fille, c'est très très rare d'avoir une babysitter. Et on voit que les parents arrivent très très tôt, à 16h, ils viennent à 15h30, 16h, ils viennent récupérer les enfants. Ouais. Et c'est très rare d'avoir une babysitter. Donc, il y avait un peu au début cette petite gêne, cette petite honte de « bon, j'ai une babysitter, je dois travailler ». Et les parents, eux, se débrouillent. Et en fait, ils l'ont intégré dans leur quotidien, le fait de devoir partir du bureau à 15h30. Ouais. Ça aussi, énorme surprise. Mais comment ils font, en fait? Comment ils font pour travailler? Est-ce qu'ils travaillent vraiment autant que les Français? Mais c'est quoi leur secret?
Donc c'est drôle, j'ai une piste de réponse, mais moi, j'arrive pas à m'y mettre. Hein. C'est qu'ils se lèvent à 5h30 du mat. Et ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué. Non, mais le work-life balance, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, que ce soit en France ou dans n'importe quel pays. Mais c'est vrai que quand tu viens de la France, où tu as l'habitude de terminer à 19h, 19h30, et tu as le temps de prendre les transports, et puis d'arriver en Suède, c'est un grand écart, je suis d'accord. Après, j'ai envie de dire, dans ce sens, on s'y fait bien quand même, c'est pas désagréable.
Ouais, on s'y fait bien. Nous, on s'est adapté au truc aussi. Donc, on va la chercher, à part ces deux jours-là, on va la chercher aussi à 16h à l'école. Mais on n'a pas encore percé totalement le mystère. Et en effet, il faut se lever plus tôt. Je pense que tu as raison. Il faut se lever plus tôt, il faut se coucher plus tôt aussi, je crois. Parce que les enfants, nous, on continue à manger à 19h, 19h30. Mais c'est vrai que mes amis suédois, ils font manger les enfants à 17h. 17h30, 18h le soir, c'est très très tôt. Ouais. Mais il y a quand même une adaptation même de la routine qui est très différente en termes d'horaire. Ça c'est sûr.
Ok, c'est vrai que c'est des différences culturelles intéressantes. Et puis j'ai envie de dire, c'est un peu pour ça qu'on est dans le pays, pour s'enrichir, pour grandir. Si on revient un petit peu sur ton rôle de journaliste correspondant qui décrypte la société suédoise au sens large. Est-ce que pendant tes investigations et tes rencontres, tu as identifié des paradoxes vraiment marquants ?
Oui, alors ça a peut-être été la découverte d'une facette beaucoup plus sombre du pays. Parce que, comme journaliste, j'étais amenée aussi à aller dans des endroits où je ne serais peut-être pas allée si j'ai, en tant qu'expatriée, tout simplement, parce qu'on n'a pas forcément l'occasion au quotidien de se rendre dans certains quartiers, dans certaines villes. Et c'est vrai que quand on pense au modèle suédois, puisque c'est le sujet de ton podcast, on a vraiment cette image d'Eldorado, de la social-démocratie, de l'égalité, d'accès pour tous à une bonne vie, finalement. Et avec cette idée d'une société qui est hyper préservée, des tensions qu'on peut voir par ailleurs. Et on a bien vu que la percée de l'extrême droite aux élections de septembre, ça a égratigné aussi cette image qu'on avait peut-être dans notre inconscient collectif. Et il faut bien comprendre que la Suède aujourd'hui, c'est un pays dont la société aussi est fracturée, et comme probablement la plupart des pays d'Europe. Et moi, dans les différents reportages que j'ai pu faire, du coup, j'ai été amenée à me rendre dans ce qu'on appelle par exemple les zones vulnérables, c'est le terme qu'utilisent les autorités suédoises, les zones vulnérables. Et donc, qu'est-ce que c'est? C'est des zones, en général, en périphérie des villes. Par exemple, à Stockholm, on a certaines banlieues au nord ou au sud qui sont classées zones vulnérables. Et voilà, on constate que les habitants, ils sont dans une plus grande précarité économique qu'ailleurs. Et c'est le corollaire où il y a aussi un taux de criminalité qui est plus élevé. Et donc, on est assez loin, même visuellement, en fait, c'est marquant. Moi, la première fois que je suis arrivée dans un de ces quartiers, on est très, très loin de l'image des petites maisons en bois. On arrive vraiment dans ce qu'on peut voir dans des banlieues à Paris ou à Lyon ou ailleurs, avec des grands immeubles construits dans les années 70. Et voilà, c'est une réalité. Dans ces quartiers-là, on va peut-être trouver 80-90% de la population qui est d'origine étrangère. Et donc, il y a très, très peu de mixité sociale. Et les Suédois, eux, ils appellent ça, en fait, ils disent que c'est un phénomène de ségrégation. Alors moi, c'est un mot qui m'a vraiment interpellée parce que...
Ouais, c'est fort, ouais. Ouais.
Et quand, je sais pas toi, mais moi, quand je pense à ségrégation, c'est, pour moi, c'est l'apartheid, c'est l'Afrique du Sud, c'est une ségrégation presque organisée. Oui, c'est une ségrégation organisée. Ici, quand on parle de ségrégation, nous, il faut qu'on comprenne un peu comme ghettoisation. C'est cette idée, ouais, qu'il y a vraiment une société presque mise à part, pour plein de raisons. Je ne vais pas trop rentrer dedans, mais en tout cas, moi, ce que j'ai pu explorer, c'est ces questions de violence par arme à feu, par exemple, qui touchent ces quartiers. Et on sait que la Suède, elle a des taux d'homicide par arme à feu les plus élevés d'Europe. Alors, on est très, très loin, évidemment, de ce qu'on peut voir aux États-Unis. Il ne faut pas du tout comparer, hein. Ça reste 60 morts par an. Mais malgré tout, ça dit quelque chose de cette société qui s'est transformée, qui a accueilli beaucoup de monde ces 10 dernières années, beaucoup, dont beaucoup de demandeurs d'asile d'ailleurs. Mais c'est le constat aujourd'hui, c'est qu'elle les a accueillis parfois dans de mauvaises conditions.
Là, je pense qu'on touche un vrai paradoxe, effectivement. Et moi, de mon ressenti, l'intégration de l'immigration, était quand même, il y avait un vrai effort de l'État, avec des cours de langue gratuits, avec toute cette démarche d'accueillir les gens. Et apparemment, pas tant que ça.
C'est-à-dire que même quand je suis allée dans ces quartiers, ou par exemple je suis allée dans une école où pareil, hein, les profs me disaient, voilà, ici on a 90% des élèves qui sont d'origine étrangère, et par ailleurs il y avait plein de choses extraordinaires qui étaient faites dans cette école. C'était une école qui est primée régulièrement par Stockholm, où pareil ils ont des cours de langue étrangère, les fameux cours de langue maternelle, et il y a 40 langues qui sont enseignées, parce qu'il y a ces enfants qui viennent de partout dans le monde. Mais quand on... Et j'invite vraiment les gens qui écoutent le podcast à se rendre dans ces quartiers où on va très très peu. Il y a parfois de très belles expositions sur ces questions, notamment des violences par arme à feu ou autres. C'est vrai qu'on a peu l'occasion d'y aller, mais quand on y va, c'est vraiment marquant, et on a l'impression d'entrer dans un monde qu'on côtoie pas du tout au quotidien. Et je me souviens d'une exposition que j'avais vue sur les violences par arme à feu. C'était des jeunes très militants qui avaient lancé cette expo, et c'était dans le quartier de Butyrka. Et dans l'expo, il y avait une porte suspendue. Et je leur ai demandé, mais en fait, c'est quoi cette porte? Ça symbolise quoi? Et ils me disaient, en fait, ça symbolise deux mondes qui ne se rencontrent pas. Et nous, on a besoin que la société suédoise nous ouvre cette porte. Donc voilà, moi ça m'avait beaucoup touchée, et beaucoup de récits de gens qui avaient perdu un frère, un ami, qui m'ont beaucoup marqué en tant que journaliste, et qui m'ont ouvert les yeux aussi, oui, sur ce fameux paradoxe. Donc, je suis désolée, j'ai un peu cassé l'ambiance.
Ouais.
Je suis désolée, mais voilà.
C'est de toute façon une facette à aborder, et en fait ça me fait penser à une série Netflix, je crois que c'est sur Netflix, de Young Wallander. Je ne sais pas si tu l'as vu, ça se passe justement, je crois que c'est à Malmö. C'est un policier en fait qui vit dans ces quartiers-là, et c'est la première fois que j'avais vu cet aspect-là de la Suède, avec les bars, avec un petit peu de criminalité. Et ça donne une autre vision.
Cette série-là, je ne pense pas l'avoir vue. En revanche, j'ai regardé Snabakash, comme beaucoup de monde, et qui nous plonge un peu dans cette question des violences par arme à feu, de la criminalité, qui est très, très bien faite. Et j'ai retrouvé aussi, en parlant à des criminologues ou dans mes reportages, j'ai retrouvé des choses que j'avais... des mécanismes aussi, comment on rentre dans ce cercle de violence quand on est un jeune homme entre 15 et 30 ans. Et voilà, Snabakash, c'est quelque chose à regarder. En tout cas, ça, c'est
intéressant,
sûr.
Je regarderai. Bon, c'est vrai qu'on était sur des sujets un peu profonds, un peu lourds. Si on allège un petit peu la chose, est-ce que dans ta vie au quotidien, tu as aussi repéré des petites différences? Je ne parlerai pas forcément de paradoxes, mais des surprises.
Écoute, je pense que une des premières surprises, une des premières choses en fait qui m'a étonnée, on va dire. Je suis très intéressée par les sujets petite enfance, évidemment, personnellement et professionnellement, mais moi, comme je l'ai dit, voilà, j'ai adoré cette approche de la petite enfance entre 1 an et 6 ans, très tournée sur la nature, la socialisation plus que la scolarisation, mais il y a des choses qui m'ont étonnée. Par exemple, pourquoi la Suède, qui sanctuarise vraiment l'enfance, introduit les écrans dans les écoles? J'ai été très surprise de savoir ma fille qui rentre de l'école et qui m'explique que ils regardent des dessins animés après l'heure du déjeuner, et tous les jours. Et donc ça, par exemple, je ne sais pas si je suis vraiment d'accord avec ça. Heureusement, il y a plein de choses qui compensent, mais ça m'a vraiment étonnée, parce qu'en France, on est vraiment sur cette politique zéro écran dans la petite enfance, alors que il n'y a pas du tout ce tabou ici.
Ouais. Est-ce que tu peux peut-être décrire rapidement le système suédois éducatif, un petit peu comment c'est avec la privatisation, tout ça? T'es capable de le résumer rapidement ou...
Non, moi, c'est quelque chose que j'ai pas assez étudié, et c'est un sujet qui est très, très complexe. Je sais que d'autres journalistes comme Anne-Françoise Hivert connaissent très, très bien cette question. Moi, j'ai juste mon expérience personnelle, donc, qui va beaucoup moins loin, et je saurais pas faire un bilan de ce gros changement qui a eu dans le système éducatif suédois. Moi, il se trouve que ma fille, elle est dans un réseau indépendant de maternelle. Donc voilà, à ce niveau-là, moi je pense pas qu'il y ait de grosses différences là sur la maternelle dans laquelle j'ai mise par rapport à la maternelle municipale du coin, tu vois, j'ai pas vu vraiment de différence, mais voilà, si la question ça t'intéresse,
ça sera clairement un épisode là-dessus, oui, parce que en gros c'est un système qui a été privatisé avec des écoles qui peuvent faire du profit. Et ça, donc, c'est toute une discussion. Il y en a qui sont pour parce qu'ils disent que ça tire vers le haut. Il y en a qui sont contre parce qu'ils disent que c'est presque du détournement d'argent public.
Ouais.
Enfin, c'est vraiment clivant comme sujet. Et après, avec notre vision de français, quand on commence à visiter les écoles et qu'on voit effectivement qu'il y a un adulte pour 5 enfants, le point de départ de référence n'est pas le même. Donc, je comprends qu'eux, ils soient alarmés, mais quand même, ils ont encore un peu de marge avant de se dégrader à notre niveau, quoi.
Oui, c'est-à-dire que... Moi, comme je suis arrivée il y a bientôt 2 ans, j'ai pris la Suède en fait comme elle était en 2023. Et donc, j'ai pas de point de comparaison. J'ai pris la Suède comme elle était à l'instant T. C'est une photographie. Anne-Françoise Hivert, par exemple, est là depuis 20 ans. Donc, elle a vu aussi ses évolutions, potentiellement la dégradation de certaines choses. Donc voilà, moi, de ce que j'ai vécu en tant que maman, j'en ai été plutôt contente. Et encore une fois, on est sur de la maternelle. Donc c'est aussi particulier parce qu'on est plus sur de la garderie en réalité en maternelle ici. Et moi, le côté les voir s'épanouir, qu'il y ait très peu de choses scolaires justement qui soient faites, mais plus être sur l'individu. individualité, leur apprendre à être ensemble, à se respecter. Par exemple, une prof qui dit, enfin une enseignante qui dit à ma fille, qui avait fait de la peine à un enfant, et qui lui explique, quand tu fais de la peine à quelqu'un, il faut aller le voir, s'excuser et lui dire qu'est-ce que je peux faire pour que tu te sentes mieux. Moi, je trouve ça super. Ouais. Et là, il y a une vraie réflexion là-dessus, sur être ensemble, puis laisser les enfants être des enfants. En France, on a beaucoup scolarisé la maternelle, et pour des raisons que je peux comprendre aussi. Maintenant, à partir de 3 ans, les enfants sont évalués sur des compétences à l'âge de 3 ans. Ouais. Il y a des raisons à ça, c'est pour essayer de faire en sorte que les inégalités ne se creusent pas. On veut contrôler... en fait, le plus tôt possible, certaines choses. Moi, je ne sais pas si c'est un bon choix. En tout cas, moi, j'apprécie beaucoup le fait qu'en Suède, on attende l'âge de 7 ans avant vraiment de les mettre dans un cadre un peu plus contraignant.
Ouais, on entend souvent les Suédois, ils sont en retard sur le classement PISA ou choses comme ça. Mais les Suédois, ouais c'est, ils sont heureux en tant qu'enfants à l'école. Ils ont envie d'y aller. Donc ça, si ce n'est pas le meilleur indicateur, ouais. Écoute, Émilie, le temps passe vite. On arrive à la fin de l'épisode. Merci vraiment beaucoup pour ton partage. Dernière question, peut-être, si tu devais citer, allez, on va dire un seul truc. Un truc que la Suède a fait changer dans ta vie. Ton contact avec la Suède, qu'est-ce que ça t'a fait, mais de façon long terme, qu'est-ce que ça a vraiment changé en toi ?
Eh bien, je pense que je ne pourrais plus habiter loin de la nature. Et ça, c'était quelque chose que je ressentais déjà, mais étant parisienne, est-ce que c'était lié au confinement, au fait d'être dans le cœur de Paris, ou est-ce que c'était un truc plus profond? Ça a un peu décentré les choses aussi, de me retrouver plus proche de la nature, de voir que mon voisin, dès qu'il fait un petit peu beau, il y a le mini rayon de soleil, il faut sortir faire son barbecue, aller faire du sport. Ça, c'est quelque chose que j'ai envie de garder de la Suède.
Ouais, écoute, merci beaucoup. C'était vraiment un partage hyper intéressant. On a touché plusieurs sujets, hein, et c'est vrai que je pense que ça va être un peu le cas sur tous les épisodes qui vont arriver, peu importe les invités. Parler de la Suède, on ne peut pas cibler un seul sujet, il faut balayer large un petit peu. Merci beaucoup.
Merci à toi, Pierre, et puis bonne continuation avec ton podcast.
J'espère vraiment que cet épisode vous a plu. De mon côté, je suis vraiment impatient de mettre en ligne les prochains épisodes. Comme vous l'avez compris, c'est le début de ce podcast, et le meilleur moyen de l'aider à grandir, c'est d'aller sur votre plateforme d'écoute et de mettre 5 étoiles et un commentaire cool. Merci à vous. C'était Pierre depuis Göteborg dans le podcast Ici la Suède.